Ce message vous est proposé gratuitement. Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Le message d'aujourd'hui, j'aimerais l'intituler « J'aimerais te dire ce que je crois ». Et pour ça, on va regarder ensemble un texte biblique dans la première épître de Pierre. Au chapitre 3, nous avons un verset 15 et suivant qui nous dit un certain nombre de choses. Et donc, au verset 15, je lis la chose suivante. Il nous est dit que nous devons être prêts, même il nous est dit que nous devons être toujours prêts à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Être toujours prêt à répondre. Et dès à présent, j'aimerais dire combien c'est important de voir qu'ici nous ne sommes pas dans un contexte de guerre des religions, ni dans un contexte de qui va l'emporter sur l'autre, qui aura raison ou tort. Mais ici, c'est une attitude où nous avons une foi. Nous avons une foi en Jésus-Christ, nous croyons un certain nombre de choses et nous aimerions les partager. Et en même temps, nous savons pertinemment que Dieu ne veut pas s'imposer à quiconque. Et que c'est important pour nous que les personnes qui nous écoutent sachent qu'elles ont le droit d'écouter ou de ne pas écouter, mais nous aimerions leur dire pourquoi nous avons une espérance en nous. Et donc, en introduction, j'aimerais qu'on prenne aussi un autre passage de la Bible. Et c'est dans Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3e. L'apôtre Paul fait un certain nombre d'explications. C'est une épître où il y a beaucoup de profondeur spirituelle. Et à un moment donné, voilà ce qu'il nous dit à partir du verset 14. Il dit « Je fléchis le genou devant le Père ». C'est-à-dire, je me mets dans une attitude de révérence, une attitude de prière. Et je reconnais l'autorité de Dieu, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Il nous dit que tout vient de Dieu, tout vient d'en haut. C'est le Créateur, c'est celui qui nous a créés à son image. Et il nous dit, voilà ce qu'il attend de Dieu et ce qu'il prie pour que chacun de nous puisse le recevoir. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je ne sais pas, par rapport à mes auditeurs, lesquels sont plus ou moins christianisés, mais on peut se rappeler pour certains, peut-être encore de la prière du Notre Père, « À toi soit la puissance, la gloire au siècle des siècles ». Et ici, il nous est dit que la gloire de Dieu, la richesse de sa gloire et la force qui vient de son esprit, que ces choses nous soient communiquées à nous en tant qu'êtres humains. Que vous soyez, chacun peut dire que moi je sois, puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que je sois fortifié dans l'homme intérieur. Et intérieur, on a l'intérieur et l'extérieur, c'est tout simple. C'est une dimension plus profonde, plus personnelle. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Que Christ puisse habiter dans un être humain, étant enraciné et fondé dans l'amour. On pourrait passer du temps à expliquer chacun des mots. Verset 18, que vous puissiez comprendre avec tous les saints, ça veut dire tous ceux qui appartiennent à Dieu, tous ceux qui ont vécu une vie mise à part pour lui. Alors que vous puissiez comprendre. Des fois on dit, oh, les choses de Dieu sont mystérieuses, on ne comprend pas pourquoi Dieu se dit cela. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous invite à comprendre? Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? Et là, on dit, tiens, il y a quelque chose d'étonnant, parce que nous sommes habitués à un univers en trois dimensions. Et là, il y en a quatre. Il y a la profondeur et la hauteur. Largeur, longueur, ça on comprend. Mais maintenant, il y a profondeur et hauteur. Donc, c'est comme s'il y a ici une description de quatre dimensions. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors, voilà ce que nous voulons dire, en fait, aux personnes qui pourraient nous écouter. C'est de dire, il y a plus que ce que nous voyons. Il y a une dimension supplémentaire. Il y a la dimension de l'être intérieur. Il y a la dimension d'un Dieu invisible. Il y a la dimension d'un créateur. Il y a une dimension dans l'esprit. Il y a tout cela nous parle d'une vie qui va infiniment au-delà de notre petit moment sur terre. Nous pouvons vivre de bonnes choses sur terre, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour sa création, pour des bonnes choses que nous pouvons vivre, et en même temps, nous devons être conscients qu'il y a plus que ça. Et la Bible nous révèle ce que Dieu a fait pour nous. La première chose que Dieu a faite pour nous, c'est qu'il nous a envoyé Jésus. Jésus n'était pas un homme comme les autres, il est né de façon surnaturelle, et il nous est décrit en Jean 17, une chose très importante pour nous. Jésus était en train de prier, il était sur terre à ce moment-là, il était en train de prier, et voilà sa prière. « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voilà la définition de la vie éternelle selon Jésus. Connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est plus que savoir des choses sur lui. Connaître Dieu, c'est avoir une relation personnelle et même intime avec lui. Se connaître mutuellement. Toi, le seul vrai Dieu. L'apôtre Paul, à un moment donné, il disait, bien qu'il y ait plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, pour nous, il n'y en a qu'un seul. Ça voulait dire pas qu'il y ait une multitude de dieux, mais dans l'imaginaire de l'humanité, il y a toutes sortes de religions, de divinités et, qui peuvent être nommées. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu et créateur. Et c'est celui que nous devons apprendre à connaître. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est important de le réaliser parce que pour nous, avec notre foi chrétienne, c'est peut-être évident, mais pour beaucoup de choses, ce que nous croyons est simplement une chose parmi beaucoup d'autres possibilités. Mais pour nous, il n'y a qu'une seule réalité. C'est que Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, si je dois vous dire quatre choses importantes que je crois, la première, c'est que Jésus sauve et que c'est lui seul. Alors, nous nous promenons toujours encore dans la Bible. Cette fois-ci, nous allons dans Tite, au chapitre 3 et verset 4. Il nous est dit, « Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, » je peux tout de suite m'arrêter ici, « la bonté de Dieu ». C'est-à-dire que Dieu est bon. Souvent, on parle de la colère de Dieu, qu'il faut savoir échapper à sa colère, il faut calmer sa fureur. Mais ici, il nous est dit que Dieu est bon et que de tout temps, il a voulu montrer sa bonté aux hommes. Mais il nous est dit, à un moment donné, sa bonté et son amour a été manifesté. Quelque chose qui est manifesté, c'est quelque chose qu'on veut montrer publiquement. Quand on parle des fois des problèmes sociaux qu'il peut y avoir, des révolutions, les gens vont dans la rue pour manifester. Ils veulent montrer ouvertement et publiquement des choses qu'ils croient ou qu'ils voudraient qu'ils changent. Et ici, nous avons une réalité de choses qui étaient depuis toujours dans l'esprit de Dieu, qu'il voulait faire, mais à un moment donné, ça a été manifesté. Maintenant, ça veut dire que tout le monde pouvait le voir, enfin ceux qui étaient présents. La bonté et l'amour de Dieu a été manifesté. Alors, de quelle façon? Verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc maintenant, on nous montre de quelle façon nous avons été sauvés. Non pas à cause des œuvres de justice. Il y a une petite histoire très importante pour nous dans la Bible. C'est qu'il nous est raconté qu'au moment où Jésus était sur la croix, il y avait à côté de lui deux malfaiteurs. Et un des deux a dit, c'est justice que nous soyons là. Nous avons fait le mal et nous sommes coupables et nous sommes en train de recevoir la punition pour le mal que nous avons fait. Mais il a dit, mais celui-ci, Jésus, n'a rien fait de mal. Et il s'adressant à lui, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et il a fait tout ce qu'il fallait pour recevoir la vie éternelle. Il a reconnu qu'il avait tort, il a reconnu que Jésus était innocent et qu'il était le juste, et il l'a invoqué, appelé à se souvenir de lui et à l'aider. Et donc, en faisant ça, Jésus dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce qui est une remarque tout à fait étonnante et même incroyable pour beaucoup de gens qui disent « Mais c'est pas possible, ça peut pas être aussi simple. » C'est pas parce que c'est simple que c'est bon marché ou que ça n'a pas coûté grand-chose. Mais Jésus nous explique par là que c'est pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Sinon, il y a beaucoup d'autres gens qui auraient été avant ce brigand sur la croix. Mais il nous est dit à cause de la miséricorde de Dieu, par le bain de la régénération. Et comme quelqu'un qui, on le prendrait et on le plonge entièrement dans un liquide qui ferait qu'il serait régénéré. On sait que les cellules de notre corps se renouvellent, mais là c'est tout un être qui est régénéré par la puissance de Dieu, par le renouvellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, agit pour qu'une personne puisse devenir une nouvelle création. Et il nous est dit que ce Saint-Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenons maintenant, quoi ? Héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. À nouveau, le mot espérance vient. On espère quelque chose. Nous croyons la vie éternelle, mais en même temps, on est maintenant dans l'espérance de quelque chose. Donc, je ne sais pas à quel niveau vous êtes, mais il est important que vous sachiez que Jésus sauve. Jésus a sauvé et il a tout accompli. Et j'aimerais prendre un petit extrait de ce livre que j'ai sous les yeux de Philippe Jauret par rapport à des interrogations que nous devons avoir sur l'Église et sa place dans la société, son impact dans la vie des gens. Et là, il nous partage une petite explication d'un tableau de la position des gens qui peuvent réaliser où ils en sont avec Dieu. Position devant Dieu. Alors, il fait une catégorie échelle des valeurs. Le plus 3, c'est la pratique des œuvres dignes de la repentance. J'explique tous les mots. Repentance, c'est changement de mentalité. Et maintenant, on est dans notre position avec Dieu, où on agit parce qu'on a une mentalité totalement nouvelle, renouvelée par Dieu. Le plus 2, c'est la participation à la vie de l'Église. Le plus 1, c'est évaluer où on en est après avoir pris une décision. Et le 0, le point de départ, c'est la nouvelle naissance. C'est cette transformation qu'on a vue à l'instant dans Tite. Donc il est important que vous, en tant que chrétien, vous sachiez où est-ce que j'en suis avec Dieu. Est-ce que je suis juste un bébé nouveau-né en Christ? Est-ce que je sais maintenant ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai vraiment réalisé où j'en suis? Ou alors, est-ce que je participe à la vie de l'Église? Ou est-ce que je suis en train d'agir selon ce que Dieu attend de moi? Et en même temps, on peut aussi penser à des personnes qui sont encore à l'extérieur du royaume de Dieu. On pourrait dire, est-ce que tu sais où tu en es avec Dieu? Il y a des personnes qui sont cyniques. Ils manifestent de l'hostilité. Ils ne sont pas intéressés, pas ouverts. Il y a des personnes qui sont sceptiques, sont un peu ouverts, mais pleins de doutes. Il y a des personnes qui sont spectateurs, souvent ouverts aux idées, mais pas motivés à se les appliquer. Et il y a des personnes que nous pouvons appeler des chercheurs. Ils sont ouverts, ils désirent, ils veulent connaître et suivre la vérité. Mais quelles que soient ces étapes que vous pouvez voir dans la vie des gens, est-ce que pour autant maintenant nous réalisons qu'ils sont encore en dehors du royaume de Dieu? C'est important de voir quand on parle à quelqu'un où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il attend de la vie, qu'est-ce qu'il attend de Dieu. Et donc là, de ce point zéro de la nouvelle naissance, de la rencontre avec Dieu, on se dirige maintenant dans l'autre sens. Donc le moins 8, ça serait la conscience fermée à toute notion de Dieu. On ne veut pas en entendre parler. Et la réalité, et ça il faut le dire souvent, pourquoi les gens sont en moins 8? Mais parce que souvent ils ne veulent pas de certaines choses que Dieu pourrait dire pour qu'ils ne puissent pas mener la vie qu'ils ont envie. Ils ne veulent pas que Dieu leur dise « c'est mal ce que tu fais ». Donc c'est ça justement quand on nous dit de ce renouvellement de l'intelligence. Ils ne veulent pas que Dieu puisse leur dire « Non, ça, tu peux pas vivre comme ça. » Donc on se ferme à toute notion de Dieu. Le moins 7, c'est conscience de l'existence d'un être suprême. Moins 6, c'est une connaissance vague du christianisme. Quand je pense combien de personnes, même dans notre pays, se disent encore chrétiennes, leur connaissance du christianisme est vague. D'après cette échelle, ils en sont à moins 6. Peut-être eux, ils imagineraient qu'ils sont à plus quelque chose, mais ici, il nous est dit qu'ils sont à moins 6, parce qu'ils ont une connaissance vague du christianisme. Le moins 5, c'est connaissance du message du salut. Savoir intellectuellement qu'un jour Jésus est venu sur terre, etc., nous fait pas être dans le royaume de Dieu. On connaît simplement le message du salut. Combien connaissent le message du salut? Combien? Si on leur demande, est-ce qu'on peut savoir si on va au ciel ou non, quelle serait la réponse? Moins 4, c'est quelqu'un qui saisit les implications personnelles. Il se dit, si je m'engage avec Dieu, voilà ce que ça va produire dans ma vie. Voilà ce que ça pourrait entraîner comme changement. En bien ou en mal, il ne faut pas voir le changement. Oh mince, je ne pourrais plus faire ceci, cela. Non, c'est qu'est-ce que ça m'apporterait? Qu'est-ce que ça produirait dans ma vie? Le moins 3, c'est reconnaître ce qui le tient éloigné de Dieu. Envisager d'agir. On est déjà en route d'une décision. Le moins 2, c'est la décision pour Jésus. Il met la conversion à moins 2 parce qu'en fait, la conversion, le désir précède la nouvelle naissance. Je décide de faire demi-tour, qu'est-ce qui se produit en moi? Ben, moi-même, je ne peux pas me sauver. Vous voyez, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait un moment, une œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, c'est je décide de me tourner vers Jésus. Le moins 1, c'est confession de son état de pécheur, c'est-à-dire reconnaître certaines choses. Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que ça a coûté à Jésus? Et ensuite, mettre sa foi en Christ. Comme le brigand sur la croix, il dit, voilà, souviens-toi quand tu viendras dans ton règne. Ça veut dire, il a cette foi que Jésus, qui est comme lui cloué à la croix, ben, il ne va pas rester dans cet état. Il va continuer de vivre, il ne va pas mourir comme un simple homme et tout s'arrête. Et c'est là, bien sûr, c'est un peu artificiel de dessiner ça avec des chiffres, mais ça nous aide un peu à mettre les choses en place. À quel moment exactement se produit ce miracle du Saint-Esprit qui transforme une personne? En tout cas, nous savons qu'il y a un avant et un après. Et qu'il y a des personnes qu'on a l'impression qu'elles sont chrétiennes, mais ce n'est que dans leur tête, ce n'est que intellectuel. Donc c'est extrêmement important pour chacun d'entre nous que nous réalisions où est-ce que j'en suis avec Dieu. Est-ce que j'ai simplement une adhésion intellectuelle? Est-ce que j'ai simplement une croyance? Ou est-ce que j'ai cette foi biblique et vivante, cette confiance en Dieu qu'il a opéré cette transformation en moi, que je suis devenu un enfant de Dieu et que j'ai expérimenté ce que nous dit 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et là encore, c'est important qu'on réalise, quand Dieu sauve, qu'est-ce qu'il fait? Il s'intéresse à notre être tout entier. On a parlé tout à l'heure de l'être intérieur, mais notre être tout entier. Esprit, âme et corps. Il y a quelque chose pour votre esprit, pour votre âme et votre corps. Poursuivez ces choses, recherchez-les. Ne vous satisfaisez pas du minimum. À un moment donné, dans Romains, je crois au chapitre 10, quand il est parlé du salut, le mot grec, j'avais entendu une fois que c'était le mot sozo, qui voulait dire à la fois sauver, mais qui voulait aussi dire protéger, guérir, être prospère, être béni. Toutes ces choses sont englobées dans le mot salut. Quand Jésus a plusieurs fois parlé à quelqu'un qu'il avait touché dans son ministère et qu'il avait guéri, il a dit, voilà, va en paix. Et quand il disait va en paix, il proclamait littéralement shalom sur eux. Shalom, ça voulait dire tout est restauré, tout est rétabli. Donc dans le salut tel que nous le concevons, il y a plus que ce que les gens peuvent imaginer. Et il y a exactement tout ce dont les gens ont besoin maintenant. On entend parler de guerre, de terrorisme, de cambriolage, de menaces, d'agressions de toutes sortes. Dans la parole de Dieu, il y a des choses pour nous garantir la protection de Dieu, le ministère des anges. Vous lisez par exemple le psaume 91 qui nous parle de la protection de Dieu. Donc ces choses sont incluses dans le salut. Sauf si on découpe le salut et qu'on le réduit au minimum. On dit, oh mais voilà, il y a juste ça, ou encore moins, ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous oserez croire. Éphésiens 2 nous dit, au verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Dans cette même pensée, dans le mot « salut », mettez-y tout ce dont vous avez besoin. C'est des choses pour votre quotidien. Quand vous vous levez, que vous voulez aller à votre activité, que vous voulez être en bonne santé, que vous voulez pas avoir d'accident, que vous voulez prospérer dans votre travail, tout cela est, il nous est dit, par la grâce, par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu. Nous agissons et nous travaillons, mais fondamentalement, nous ne ramenons pas tout à nous-mêmes. On ne dit pas, c'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui ai tout conçu et inventé et imaginé, et c'est grâce à mon intelligence et à ma force. Le chrétien intelligent, il sait dépendre de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand on pense bonnes œuvres, peut-être ce mot peut sembler un peu vieillot, un peu désuet, mais c'est toujours encore d'actualité. Le monde actuellement, il admire ceux qui font de bonnes œuvres. On a des Mère Teresa à Calcutta, plus proches de nous, des gens qui travaillent dans les Restos du Cœur, des choses comme ça. On se rend compte qu'une partie de la société admire ceux qui, par dévouement personnel, s'occupent d'autres personnes. Et ici, il nous est dit, c'est l'idée de Dieu. Il a préparé de bonnes œuvres pour que chacun d'entre nous puissions contribuer à ce que ce monde devienne meilleur et qu'on puisse faire quelque chose qui soit bon dans ce monde. De bonnes œuvres, c'est possible. Donc, Jésus sauve. Et aussi, l'autre point, c'est Jésus guérit. On a des besoins plus que jamais. Notre médecine a progressé, on a de la technologie, on a des médicaments et on a l'impression qu'il y a plus de malades que jamais, de toutes sortes. On a des nouvelles maladies maintenant. Des maladies que nous avons nous-mêmes en tant qu'êtres humains créées par l'industrie, par la pollution, par toutes sortes de choses où nous sommes en tant qu'êtres humains responsables. Mais Jésus qui guérissait du temps où il était sur terre est le même, la Bible nous dit, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc nous sommes là pour dire non seulement Dieu te comprend, non seulement Dieu voit quand tu souffres, mais en plus, il a prévu des choses pour te guérir, pour que tu sois en bonne santé. C'est seulement pour celui qui croit. Et alors, nous avons des passages comme dans Matthieu 8, nous voyons Jésus en train de guérir des gens. Et il nous est dit, c'est afin que se réalise ce qu'avait annoncé Ésaïe, le prophète, des centaines d'années auparavant. Et il avait dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et 1 Pierre 2, 23-24 nous reprend ce même passage en disant « Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. » Donc encourageons-nous sans cesse à croire que malgré la situation de santé, de problèmes, de pollution, de bio ou non, nous avons un Dieu qui s'intéresse à nous tout entier, esprit, âme et corps. Et non seulement cela, mais nous encore, nous avons un ministère auprès des autres. Luc 4, 18, Jésus avait ouvert le livre du prophète et dit « L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a donné une onction, une capacité par le Saint-Esprit pour guérir, pour proclamer la liberté. » Et donc, de la même façon, il nous a aussi envoyés pour faire les mêmes choses. Donc, non seulement revendiquons pour nous-mêmes une bonne santé, mais soyons assurés que Dieu veut, au travers de nous, bénir des gens pour qu'ils puissent retrouver la santé. Acte 10, 38 nous dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Quelqu'un pourrait dire « Oui, mais là c'était Jésus. » Mais les apôtres, ils avaient compris. Dans Acte 3, Les apôtres ont dit, ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Alors des gens objectent des fois en disant, oui, mais on n'a pas le droit de faire ça parce que vous vous rendez compte, la personne, elle est malade. Si on lui donne un faux espoir, alors que va-t-il se passer? Oui, mais des fois, si on ne dit rien du tout, que va-t-il se passer? Ben, il va se passer qu'elle va peut-être mourir ou elle va continuer de souffrir. Et peut-être, effectivement, si vous annoncez l'évangile de Jésus qui guérit, il se peut que certaines personnes ne reçoivent pas leur guérison. Il se peut qu'il y ait après des problèmes de déception. C'est possible. Il y a toujours un risque qu'ils ne reçoivent pas. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit cacher la vérité de tout ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous, pour notre être tout entier, esprit, âme et corps? Continuons de déclarer qui il est et ce qu'il a fait. Jésus sauve, Jésus guérit, et Jésus est baptisé du Saint-Esprit. Le 3 aussi. Troisième point, il baptise du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est cette puissance qui se manifeste. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. C'est dans Actes chapitre 1. Au moment de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues, être remplis du Saint-Esprit, que ça a créé un mouvement dans tout Jérusalem. On est venu voir qu'est-ce que c'est que ce bruit, qu'est-ce qui se passe. Ils ont découvert, on leur a dit, c'est exactement ce que le prophète, encore un prophète qui avait annoncé. Voilà ce qui va se passer. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc ne soyez pas satisfaits à moins d'être remplis du Saint-Esprit. Recherchez, poursuivez constamment cette relation avec le Saint-Esprit. Sur toute chair. Pourquoi? Parce que nous avons besoin pour vivre dans le monde d'avoir l'aide du Saint-Esprit. Vous savez, il y a aussi d'autres esprits qui agissent dans ce monde. Alors comment nous, en tant qu'êtres humains, pourrions-nous faire face à tout ce qui se passe? Je pense maintenant, tout à l'heure j'ai dit Jésus guérit corps et âme. L'âme aussi peut être malade. Quand on voit toutes les dépressions qu'il y a autour de nous, qu'est-ce que c'est? C'est que l'être humain cherche à faire face à des puissances qui agissent au niveau de la peur, de l'inquiétude, des angoisses, de tous les découragements qu'il peut y avoir. Et on essaye de se battre avec des armes humaines qui ne sont pas assez fortes pour faire face. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour ça. Vous le croyez ça? On ne peut pas s'en sortir tout seul. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous faire honte de dire non, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Au contraire, c'est un signe d'intelligence de dire, moi je collabore avec Dieu. J'essaie pas de faire, j'allais dire un mot, de faire le malin en essayant de me débrouiller tout seul. Non, je suis assez intelligent pour dire, c'est avec Dieu que ça va marcher. C'est lui qui va le faire. On dit des fois un peu à la légère, oui, nous avons tout pleinement en lui. Oui, on a tout pleinement en lui. Encore faut-il réaliser à quel point il peut nous aider dans notre situation. Jean-Baptiste trouvait que c'était assez important le baptême dans le Saint-Esprit. Parce qu'il nous est dit, quand il a vu Jésus dans Jean chapitre 1, il vit Jésus venant à lui. Donc Jésus n'avait encore accompli aucun miracle. Il était venu pour se faire baptiser par Jean-Baptiste, comme tout le monde. Et il nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout de suite, il a identifié, vous rendez compte, il avait une révélation, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Une fois de plus, c'est quelqu'un qui ne réalisait pas ce qu'il disait. Puisque plus tard, il était dans la prison et il était découragé. Il a dit, mais est-ce que c'est vraiment lui? Mais là, sur le moment, Dieu s'est manifesté et lui a révélé, voici l'agneau de Dieu. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Comprenne qui pourra. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël, manifesté, montré que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. Voilà le témoignage qu'il a rendu. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit est absolument un must. C'est absolument nécessaire pour chaque chrétien. ne peut pas dire, oui, bon, c'est une catégorie de chrétiens, ceux qui s'appellent les pentecôtistes. Oui, ceux-là, ils exagèrent un peu dans ce domaine, ils en parlent tout le temps. Non, c'est chacun en a besoin. Jean-Baptiste en a parlé, Jésus l'a fait, c'est le Saint-Esprit, c'est une personne de la Trinité. Nous avons besoin d'être en communion avec lui, nous avons besoin de marcher avec lui tous les jours, de nous laisser remplir tout entier. Baptiser, ça veut dire immerger. Et puis il y a des moments où on n'est plus immergé, alors il faut de nouveau se réimmerger. Il y a des moments où on commence à se vider du Saint-Esprit, alors il faut de nouveau se laisser remplir. Quelqu'un dit, c'est comme la jauge d'essence du véhicule. Quand vous avez du carburant qui baisse, au bout d'un moment, le voyant s'allume. Quand il y a des choses qui se passent dans votre vie, que vous êtes irritable, que vous commencez à avoir des sentiments négatifs, que vous êtes facilement critique ou autre chose, vous voyez que vous avez baissé. Vous devez de nouveau laisser le Saint-Esprit vous remplir et enlever toutes ces choses et mettre de meilleures choses à la place. Et le quatrième dernier point que nous voulons partager absolument, c'est que Jésus revient. Jésus revient et on avait en introduction, on avait dit quoi ? Que nous devons être prêts avec douceur et respect à parler de l'espérance qui est en nous. Voyez le monde dans la situation dans laquelle il est. Est-ce qu'il y a une réponse politique ? Il y a des choses à faire. La politique ne sauvera pas le monde. Est-ce qu'il y a une réponse économique ? L'économie ne sauvera pas le monde. Est-ce qu'il y a des choses que nous pourrions faire dans le domaine de l'écologie ou d'autres choses ? Toutes ces choses peuvent avoir un impact, mais qui sera toujours limité. À la fin, nous ne sommes pas des gens qui sommes là pour dire « c'est terminé, on abandonne ». Nous sommes au contraire là pour dire « nous annonçons la seule vraie réponse ». Jésus est le seul espoir du monde, il revient et c'est tant mieux, parce que c'est la seule réponse. Et il revient, d'après la Bible, de deux façons. D'abord, dans Acte 1, il nous est dit « ce Jésus reviendra de la même façon ». C'est l'ascension. Les gens ont peut-être entendu parler de l'ascension. Les disciples étaient ensemble, Jésus était au milieu d'eux, et à un moment donné, il a commencé à s'élever. Imaginez ça, cette situation. Comme ça devait être saisissant, je ne sais pas, ils ne devaient plus bouger. Là, ils disent qu'est-ce qui est en train de se passer. Ils voient que Jésus est au milieu d'eux, et tout à coup, il commence à monter, et il commence à monter dans des nuées, et puis il continue de regarder en haut. Et des anges leur apparaissent. Et leur disent, mais pourquoi vous continuez de regarder en haut ? Ce Jésus reviendra de la même façon. Et donc, ils ont dit, il va revenir de la même façon. Donc, il y aura un retour de Jésus. Selon la Bible et selon ce que nous croyons, il y aura un retour de Jésus. Il est le Messie qui va sauver la planète Terre cette fois-ci. Il peut être notre sauveur et Seigneur personnel, mais il viendra aussi sauver la planète Terre. C'est ce que nous croyons, il reviendra de la même façon, un retour visible. Mais d'abord, pour nous, d'abord, il y aura un retour pour nous chercher. Et ça, c'est Paul qui l'écrivait dans une de ses épîtres, aux Thessaloniciens, au chapitre 4, pour encourager ceux qui avaient connu des personnes qui sont décédées. Nous avons tous des personnes qui nous sont chères, qui sont parties. C'est normal, c'est la vie qui est comme ça. On peut espérer en Dieu pour la longévité, on peut espérer en Dieu pour l'immortalité, on peut espérer en Dieu pour la guérison, mais à un moment donné, il y a des personnes qui sont parties. Et il y a un moment de retrouvailles tous ensemble dans la présence de Dieu. Et donc Paul écrivait aux Thessaloniciens pour les consoler, c'est-à-dire ne soyez pas tristes pour ceux qui sont décédés. Et lui, il utilisait même le terme endormi. Il dit parce qu'il y aura un moment de retrouvailles. À un moment donné, il est dit, d'abord, ceux qui sont morts en Christ vont se réveiller et nous, on va être tous ensemble transformés et attirés vers Jésus dans les airs. Cela, tout le monde ne le verra pas, sauf ceux qui appartiennent déjà à Dieu, qui font partie de la famille de Dieu. Et donc, il y a un temps de retrouvailles et dans un deuxième temps, Jésus vient pour établir son royaume. Et alors certains ne veulent pas le croire, mais certaines choses on pourrait dire, nous on ne cherche pas à imposer nos idées. Nous le croyons et on vous le dit, et si vous voulez le croire aussi, vous serez au bénéfice. Dans 2 Pierre 3, Pierre écrivait il y a 2000 ans à peu près, disait certains, ce sont des moqueurs, ils ont des railleries, ils veulent marcher selon leur propre convoitise, et ils disent, où est la promesse de son avènement ? Où est la promesse que Jésus va revenir? Depuis que les pères sont morts, ça veut dire que les générations ont passé, tout demeure comme dès le commencement de la création. Rien n'a changé dans l'histoire humaine. Et il nous est dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. On sait que la vie est venue de l'eau. Sans l'eau, il n'y a pas la vie. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Il y a eu le déluge qui s'est manifesté. Mais il nous est dit qu'il y a aussi un autre jugement qui attend la terre pour une transformation. Mais au verset 8, il est dit, il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Et là encore, c'est pas pour faire des mathématiques, c'est pas pour faire des savants calculs. C'est simplement pour dire, nous on a l'impression des fois que certaines choses sont lentes, mais il y a une raison à ça. Il nous est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Est-ce que vous n'avez pas réalisé que combien de fois Dieu voudrait nous parler plus? Il voudrait nous attirer à lui, il voudrait que certaines choses changent dans notre vie. Et des fois, nous, on aimerait que certaines choses viennent plus vite, qu'on attend de lui. Et on prie, on aimerait que Dieu fasse ceci, fasse cela. Mais lui, il aimerait aussi que certaines choses changent. Mais il est patient avec chacun d'entre nous. Et donc, en conclusion, disons que la foi est pour nous la clé. C'est la clé. Cette confiance en Dieu. Cette confiance que ce que nous avons lu, ce que nous avons cru, c'est une réalité. Et certaines choses que nous ne voyons pas encore, nous allons les voir se manifester. Vous le croyez avec moi? Alors j'aimerais juste terminer avec Hébreux 11. Hébreux, c'est un chapitre 11 de la Bible qui nous parle des témoins de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et un peu plus loin, verset 6, il nous est dit, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Si vous le cherchez vraiment, il y a une rémunération. Il y a quelque chose qui va se produire, quelque chose que vous pourrez expérimenter. Et j'aimerais encore vous encourager en lisant une prière que vous pourrez faire, que j'ai extrait d'un petit livret. Ici, il nous est dit que c'est une prière pour le salut et le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, on va vraiment le lire et je vous encourage à être dans cet esprit de prière, peut-être répéter en vous les mots, si vous voulez. Donc, Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus. Ta parole dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est dans Actes chapitre 2, verset 21. Je t'invoque et je te demande, Jésus, de venir dans mon cœur et devenir le Seigneur de ma vie. Selon Romains 10, 9 et 10, il nous est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je le fais maintenant, je confesse que Jésus est Seigneur, et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Si vous avez fait cela, alors vous pouvez proclamer que vous êtes né de nouveau par l'action du Saint-Esprit. Je suis né de nouveau. Je suis devenu chrétien, enfant du Dieu Tout-Puissant. Je suis sauvé. Ta parole dit également, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? C'est dans Luc 11, 13. Alors nous pouvons aussi faire cette prière. Je te demande aussi de me remplir du Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, élève-toi en moi afin que je loue Dieu. Je m'attends à parler en d'autres langues parce que tu m'en donnes la capacité. Comme les apôtres du temps de la Pentecôte dans Actes 2, 4. Au nom de Jésus, Amen. Et alors vous pouvez commencer à louer Dieu, car vous savez par la foi qu'il vous a rempli du Saint-Esprit. Vous prononcez des mots, vous pouvez le louer, l'adorer. Les mots, les syllabes qui viennent, pas dans votre propre langage, mais dans un langage de l'Esprit, dans celui qui vous est donné par le Saint-Esprit. Vous devez utiliser votre propre voix. Dieu ne vous forcera pas à parler. Ne vous inquiétez pas du résultat produit. C'est une langue céleste. Et persévérez dans cette bénédiction que Dieu vous accorde et priez dans l'Esprit en langue chaque jour. Chaque jour. Alors vous êtes maintenant né de nouveau, un croyant rempli du Saint-Esprit, et vous ne serez plus jamais le même. Recherchez une bonne église où l'on prêche fidèlement la parole de Dieu et où on la met en pratique. Engagez-vous dans cette assemblée. Vous serez aimé, l'on prendra soin de vous, tout comme vous aimerez prendre soin des autres membres. Nous avons besoin d'être en relation les uns avec les autres. Cela nous rend plus forts en Dieu. C'est le plan de Dieu pour nous. Lisez chaque jour la parole de Dieu, la Bible, et persévérez dans la prière, dans l'esprit en langue. Devenez quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu et en reçoit les bénédictions. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.